l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Et c'est un peu comme hier, avec des températures un petit peu plus clémentes que débute ce Présence Midi. Quel bonheur de vous retrouver pendant l'été pour ce petit moment où on parle tout simplement de notre région. Et c'est encore un bonheur qui est encore supplémentaire puisque j'accueille Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors par téléphone aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas dans les studios de Radio Présence, puisque vous êtes un petit peu plus loin, vous êtes du côté de Bagnères-de-Bigorre.
Exactement, alors j'étais, figurez-vous, sur la route du retour pour vous rejoindre, mais oui. J'ai fait halte à Bagnères au retour de Sainte-Marie de Campan, où j'ai ce matin effectué un reportage alors que le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, faisait une opération sécurité pour les vélos au pied du Tourmalet, au départ du Tourmalet.
D'accord.
Je suis pas montée à vélo en haut du Tourmalet. Je suis restée à Sainte-Marie de Campan. Ma foi, c'était déjà très très bien pour moi.
Est-ce que tout était réglementaire sur votre vélo ?
Alors, je ne suis pas allée en vélo, mais j'ai maintenant dans la tête bien les consignes qu'il faut respecter si jamais je veux partir explorer le Tourmalet.
Et que vous allez bien sûr nous donner d'ici quelques minutes.
Exactement.
Et puis, on aura aussi un évêque, Monseigneur Moller, qui a été l'ancien évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Il sera au micro de Violaine Ricourt-Dumas d'ici quelques instants. Et puis, on partira dans les montagnes grâce, comme chaque semaine, à Anne Lasserre. Voilà, c'est le programme de ce Présence Midi que je vous propose. Et en attendant, de vous retrouver, Anne-Rose.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Alors, comme chaque semaine, bien sûr, nous retrouvons Anne-Rose Jankovic pour la chronique agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes. Rebonjour Anne-Rose.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. On a des petits problèmes de connexion, hein. On est mieux quand on est en studio.
Oui, vous êtes un petit peu éloigné, mais on va y arriver quand même. C'est le rendez-vous agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes. Malgré que ce soit l'été, il y a des propositions que vous allez nous distiller. Hein.
Ah bah oui, parce que justement, quand c'est l'été, il y a beaucoup d'acteurs de la pastorale, des réalités, du tourisme et des loisirs qui se mettent en action dans toutes les paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un pèlerinage, un rendez-vous annuel qui a lieu au sanctuaire Notre-Dame de Poilin, c'est à Arins-Marsous. Vous voyez, c'est après Argelès-Gazost, c'est au fin fond du Val d'Azun, c'est un coin magnifique. C'est le dimanche 26 juillet. Alors, on dit que c'est le pèlerinage des grands-parents parce que nous fêtons Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, mais c'est un pèlerinage qui est ouvert à tous. Et cette journée du dimanche 26 juillet, elle va commencer dès 9h par la marche avec méditation du chapelet au départ de l'église d'Aucun. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas marcher, bien au même moment, à 10h30, il y aura la méditation du chapelet dans la chapelle de Poilin directement. Alors, une fois que tout le monde sera retrouvé dans la chapelle du sanctuaire de Poilin, à 11h30, il y aura un temps de louange, puis la prière de l'Angélus, avant le moment du pique-nique que chacun aura pris soin d'apporter. Et à 13h30, vous pourrez écouter une conférence de Monseigneur Jacques Perrier, il est l'évêque émérite de Tarbes-et-Lourdes, qui nous parlera de Sainte-Anne, la grand-mère institutrice. Puis à 14h30, il y aura une rencontre avec le recteur du sanctuaire de Poilin, et puis les perspectives pour ce lieu, avant à 15h, la messe avec la vénération des reliques de Sainte-Anne qui se trouve dans ce sanctuaire. Vraiment, je vous invite à participer à ce pèlerinage. Et puis, si vous ne pouvez pas être à ce rendez-vous le dimanche 26 juillet, eh bien, profitez de l'été pour aller faire un tour à Reims-Marsous et découvrir ce sanctuaire de Poyen et sa chapelle, qu'on dit la chapelle dorée. Quand vous y rentrerez, vous comprendrez pourquoi. Voilà, ça vaut vraiment le détour et c'est un des lieux qui parle le mieux de la piété mariale populaire qu'il y a en Bigorre. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller à Poyen pendant l'été.
Voilà pour une des propositions magnifiques, hein, Poyen, hein. Petite chapelle absolument majestueuse. On continue, qu'est-ce que d'autres propositions que vous avez sélectionnées pour nous ?
Alors, un autre rendez-vous, un autre pèlerinage, un pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Nouillan. Vous savez qu'en Bigorre et dans les Quatre-Vallées, il y a beaucoup de lieux où l'on prie la Vierge Marie. Il y a Lourdes, évidemment, mais il y a beaucoup d'autres lieux. C'est le cas à Montousset. C'est un petit village qui se trouve à 10 minutes de Lannemezan quand vous prenez la direction d'Arreau. Le sanctuaire Notre-Dame de Nouillan, l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jean-Marc Nica, nous invite à nous y retrouver le samedi 1er août prochain, dès 10h pour la prière du chapelet. Il y aura ensuite la présentation du message de ce sanctuaire. À 10h45, la messe présidée par Monseigneur Mika. Et ensuite, un repas partagé. Et puis, le chapelet qui sera prié dans la grotte. Parce que oui, enfin devant la grotte, puisqu'il y a une grotte aussi au sanctuaire Notre-Dame de Nouillan. À 14h, donc prière du chapelet. Avant la bénédiction eucharistique à 14h30. Voilà ce rendez-vous diocésain, samedi 1er août, de 10h. À partir de 10h jusqu'au milieu de l'après-midi, vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le site du diocèse et puis sur l'application Au Clocher. Alors comme on est, une fois qu'on est à Nouillan, on est vraiment tout près de rentrer dans la Vallée d'Or et du Louron, eh bien je voudrais faire un petit focus aujourd'hui, oui, sur les églises ouvertes justement dans cette paroisse Or-Louron, avec notamment alors, les églises peintes, hein. Vous avez par exemple l'église de Bourispe, de Gouault, qui sont des églises peintes et donc qui sont ouvertes tous les jours, que vous pouvez visiter. Puis il y a aussi des églises qui se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques. C'est le cas, par exemple, à Trémazègue, à Cadeillan, à Égette. Ces églises, elles sont vraiment ouvertes. Et il y a parfois, vous avez sur la porte de ces édifices des numéros de téléphone et des dates pour pouvoir rencontrer des personnes qui font visiter, des visites commentées. Mais vous pouvez aussi aller les visiter seules si vous voulez. Et puis, il y a les églises au pied de l'Arbison, avec ces villages magnifiques d'Ancizan, Aulon, Duchesne. Voilà, et là, il y a en particulier une visite ce 21 juillet, 28 juillet, et également au mois d'août, les 4 août et les 11 août. Voilà, vous voyez que les chrétiens se mobilisent en Vallée d'Or et du Louron pour ouvrir les églises, pour accueillir les gens et pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce patrimoine religieux absolument merveilleux.
Oui, c'est vrai que c'est pratique lorsque pour nos touristes ils sont là, bien ouvrir les églises, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, et c'est ce que vous faites aujourd'hui sur Radio Présence. Autre rendez-vous, Anne-Rose ?
Alors écoutez, moi je voudrais vous parler, oui, d'un rendez-vous qui aura lieu au mois de septembre et que tout le monde a bien évidemment en tête, mais je voudrais quand même, je vais vous en parler toutes les semaines, hein, jusqu'au jour J. Vous savez évidemment que le pape Léon XIV vient en France au mois de septembre. Il sera à Lourdes à partir du samedi 26 septembre au soir. Il arrivera le soir, il passera la journée du dimanche 27 septembre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il se fera vraiment pèlerin parmi les pèlerins. Nous en parlons déjà depuis plusieurs jours sur Radio Présence et ça va continuer puisque on va vraiment vous accompagner jusqu'au jour J pour vivre pleinement cet événement qui est avant tout un événement spirituel, bien sûr. Pour les chrétiens, les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes, il y a un message à relayer et à retenir, c'est que les paroisses sont vraiment mobilisées d'ores et déjà pour organiser des bus pour venir passer la journée du dimanche 27 septembre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et je voudrais profiter de cette chronique diocésaine pour le dire et le rappeler. Vraiment, rapprochez-vous de vos paroisses d'abord, parce que venir avec sa paroisse le dimanche 27 septembre, prier avec le pape Léon XIV au sanctuaire de Lourdes, ça veut dire d'abord vivre un moment pastoral et spirituel absolument unique, exceptionnel, pour démarrer l'année pastorale, voilà, pour vivre quelque chose de fort avec la communauté paroissiale. C'est quand même pas tous les ans qu'on démarre l'année paroissiale avec ce genre d'événement. Donc vraiment pour souder la communauté paroissiale et pour vraiment démarrer cette année, vivez ce moment avec votre paroisse. Et puis tout simplement, c'est une question de vous simplifier la vie, hein, parce que nous savons maintenant que les abords du sanctuaire et même au-delà, les abords de Lourdes seront compliqués, hein, puisque ça ne sera pas possible d'accéder en voiture particulière à Lourdes à une certaine distance. À partir d'environ 30 km, on ne pourra plus accéder à Lourdes. Il y aura des navettes, des autocars, des trains. Donc franchement, simplifiez-vous la vie. Inscrivez-vous avec votre paroisse qui va organiser certainement un bus. Vous pouvez déjà, si vous êtes dans la paroisse de Bagnères de Bigorre ou d'Argelès-Gazost, eh bien ces paroisses-là sont déjà mobilisées, des préinscriptions sont déjà en cours. Voilà, vous avez cette opportunité de venir de manière beaucoup plus simple, de vivre un moment unique avec votre paroisse au sanctuaire de Lourdes. Et puis eh bien, les fidèles du diocèse d'Armes et Lourdes ont la chance d'avoir un espace qui leur sera réservé ce dimanche 27 septembre. Eh bien, si vous venez avec votre paroisse, vous pouvez être sûr que vous aurez accès à cet espace qui sera réservé pour les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes sur la prairie pour vivre la messe dimanche 27 septembre après-midi, cette messe qui sera présidée par le pape Léon XIV. Donc vraiment, voilà les bonnes raisons pour lesquelles il faut vous rapprocher de votre paroisse d'ores et déjà pour vous préinscrire et signaler que oui, vous êtes pèlerin à Lourdes avec le pape Léon XIV le dimanche 27 septembre.
Vous avez bien fait de nous le rappeler, puisque beaucoup de gens pourraient se dire « je le verrai à la télé, ça sera mieux ». Non, il faut vraiment venir le vivre ici, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On a cette chance inouïe quand même, hein, d'avoir la présence du Saint-Père. Ne faites pas comme beaucoup de gens de se dire qu'on sera mieux devant la télé pour le regarder, hein.
Ah ben oui, alors effectivement, si vraiment vous ne pouvez pas, Radio Présence sera mobilisée, mais sachez quand même qu'il y a des personnes qui se mobilisent partout. Alors évidemment, je parle du diocèse d'Armes et Lourdes, mais je sais que c'est le cas dans tous les diocèses de la province, où il y a des équipes qui sont déjà en place pour organiser le mieux possible les acheminements de bus ou de navettes jusqu'au sanctuaire de Lourdes pour vivre ensemble cette journée. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez prier avec le pape Léon XIV à Lourdes le dimanche 27 septembre.
Voilà, et on le répétera jamais assez, c'est une réunion de famille et il faut que tout le monde soit présent. Voilà, et donc avec ces bus, c'est une façon très très pratique d'arriver au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et de ne pas s'angoisser sur est-ce qu'on va pouvoir y arriver. Bien, avec cette organisation-là, on va y arriver sans aucun problème.
Oui, puis c'est aussi une manière de faciliter le travail alors, à notre échelle des forces de l'ordre, hein, parce que, évidemment, si chacun vient avec sa petite voiture personnelle, ça va être compliqué. Donc, à notre échelle, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est d'être sage. Alors, soyons sages et allons-y ensemble voir le pape.
Exactement. Et vous le rappellerez, bien sûr, vous l'avez dit tout au long de vos chroniques.
Hein, je vais tellement le rappeler que vous en aurez marre de m'entendre.
Et puis moi, je vais carrément prendre le bus pour venir. Alors du coup, merci beaucoup Anne-Rose Jankovic, où je crois que vous en avez terminé pour aujourd'hui votre chronique qui est chaque semaine, donc on met à l'honneur le diocèse de Tarbes et Lourdes. Malgré l'été, mais il se passe toujours des choses et c'est bien que vous nous les rappeliez.
Merci Philippe, oui, effectivement, voilà. Il se passe beaucoup de choses.
Ça vous fait sourire. Et on va vous retrouver tout à l'heure sur, alors vous pas sur les routes du Tour de France, puisqu'il est passé, mais Sécurité Vélo, c'est une opération qui s'est déroulée aujourd'hui, je crois, ou ce matin.
Oui, tout à fait. Alors, tout juste une semaine après le passage du Tour de France à Bagnères de Bigorre et dans cette vallée de Campan, eh bien, le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, a aujourd'hui, ce matin, mené une opération sécurité qui ciblait les cyclistes au départ du col de Tourmalet. C'était à Sainte-Marie-de-Campan et effectivement, j'y étais avec mon joli petit micro de radioprésence et je vous en parle dans quelques instants.
Quelques instants, d'ici donc quelques petites minutes. Merci beaucoup Anne-Rose Jankovic et puis en attendant votre reportage, on vous souhaite une très belle journée.
Oui, merci Philippe.
Et puis à la semaine prochaine et puis bon retour donc, puisque vous êtes, on l'a dit, du côté de Bagnères de Bigorre aujourd'hui pour faire donc ce duplex avec nous. Merci Anne-Rose, à la semaine prochaine.
À Bagnères de Luchon 94 FM. la beauté qu'on délaisse, pour les soleils qu'on n'a pas vus, les passions qu'on n'a pas vécues, pour l'ignorance et la paresse. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Je suis venu tendre et stupide hanter la maison du bonheur. J'y suis entré comme un voleur et j'ai trouvé la maison vide. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient. On rêve, on parle, on rit, on rit. Tu m'as dit, regarde la lune, mes yeux n'ont pas quitté ta main. Reste un regret sur mon chemin, reste un reflet sur la lagune. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. Voir la vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. On rit pour oublier que tout ça n'est pas drôle. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit.
Et vous avez reconnu la voix de Julien Clerc sur Présence.
Radio Présence à Gourdon, 104.8.
Savello, ça peut être la chronique aujourd'hui, le sujet de votre chronique, Anne-Rose Jankovic.
Oui, alors tout Savello, moi je veux bien, mais peut-être pas pour monter au col du Tourmalet. En tous les cas, une semaine après le passage du Tour de France, Jean Salomon, le préfet des Hautes-Pyrénées, a mené ce matin à Sainte-Marie-de-Campan, au départ du col du Tourmalet, une opération sécurité vélo. Alors dans un contexte où les statistiques finalement sont assez stables depuis quelques années, les accidents impliquant des vélos sur les routes sont à hauteur de 20%, donc ça ne change pas beaucoup, mais 20% c'est déjà beaucoup, et aujourd'hui vous savez que le vélo se sont aussi les activités, les expériences plus intenses hein, en bikepark. En tous les cas, aujourd'hui, ceux qui étaient ciblés par cette opération sécurité menée par la préfecture des Hautes-Pyrénées, c'était vraiment les cyclistes seuls ou en groupe qui s'apprêtaient à grimper ce sommet du Tourmalet. Je vous propose d'écouter Jean Salomon, le préfet des Hautes-Pyrénées.
Alors si je faisais un message très court, c'est tout le monde n'est pas Pogacar. Le deuxième message, c'est la route se partage. Et mis à part pour le Tour de France où la route est privatisée, ben, le vélo n'est pas seul. Donc il y a des voitures, il y a des camions, il y a des vélos qui roulent vite, des vélos qui roulent moins vite. Et les règles sont toujours les mêmes, ce sont celles du code de la route. On doit rester sur sa voie, on doit être capable de s'arrêter dans la portion de route qu'on voit, on doit adapter sa vitesse aux conditions de circulation, sachant que le cycliste est un usager plus vulnérable au regard du faible niveau de protection qu'il y a sur un vélo. Et c'est cet appel à la prudence. Voilà, un grand, grand appel à la prudence. Moi, j'entends souvent, c'est de la faute des autres, et je l'ai encore entendu ce matin. Hein. Moi, le cycliste, je fais bien, mais c'est la voiture qui franchit la ligne continue, et vous devriez plutôt arrêter les voitures. Et l'expérience nous montre, hein, on pratique, vous et moi, les routes du département, et assez souvent, bah, on voit dans les virages des cyclistes aussi qui coupent les routes, ou qui occupent toute la largeur de la chaussée, obligeant l'automobiliste à se déporter, comme il faut se déporter d'1m50 pour doubler. Ça fait qu'on est très vite face aux voitures en face.
Est-ce qu'ils ont d'autres comportements accidentogènes et dangereux que vous avez remarqué, les cyclistes ?
Alors aujourd'hui, en fait, de manière générale, quand on est plusieurs sur une chaussée, tout comportement peut être accidentogène. L'idée n'est pas de stigmatiser les cyclistes pour dire qu'ils sont plus dangereux que les autres. C'est pour eux qu'on dit ça, en fait. C'est pour dire, si vous voulez profiter pleinement de votre virée cycliste dans les Hautes-Pyrénées, Soyez prudents, respectez le code de la route, gardez, alors rentrez pas dans le bas-côté, mais serrez plutôt la partie droite de la chaussée. C'est ce message-là qu'on veut passer. Moi, les gens aujourd'hui, c'est vraiment les mêmes règles, enfin en général, les grands cyclistes, ils ont le permis de conduire. Mais c'est de rappeler que la vitesse, elle doit toujours être adaptée aux conditions de circulation. Donc si j'ai pas la visibilité, je descends pas le Tourmalet à 70 km/h. Et puis je suis aussi conscient de mes forces physiques. Si je sens que ça tremble un peu, je suis fatigué, je ralentis, je m'arrête. C'est pas très grave. Moi, je pense que c'est toujours bon de redescendre entier du Tourmalet ou monter entier au Tourmalet, plutôt que de se dire que c'était son dernier Tourmalet. Alors sur les 5 dernières années, les statistiques sont à peu près stables. Voilà, les cyclistes, c'est à peu près 20% des accidents de la circulation dans les Hautes-Pyrénées. On a à peu près la moitié en zone urbaine, l'autre moitié en extra-urbain, plutôt des hommes. Voilà, ça, c'est des statistiques à peu près constantes. Depuis le début de l'année, on a eu 2 morts. C'est beaucoup. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup. Et sur les 5 dernières années, beaucoup des personnes qui sont décédées, c'est aussi parfois un arrêt cardiaque. Donc, c'est de la fatigue ou c'est un effort. Et à la fin, la personne fait l'arrêt. Alors, parfois sur le vélo, hein, donc c'est un malaise, elle tombe et puis on ne peut pas la récupérer. Ou c'est à l'arrivée, la personne a une douleur dans la poitrine et puis elle s'effondre avec un arrêt cardiaque.
Est-ce qu'il y a plus de risques quand les cyclistes sont seuls ou lorsqu'ils sont en groupe? On voit aussi les dangers. Parfois, quand ils sont en groupe avec les autres usagers, ça pose très vite des problèmes. Quelle est la meilleure règle selon vous?
Alors, je ne sais pas s'il y a la meilleure règle. Enfin, d'abord, il y a un principe qui est celui aussi qu'on répète pour la montagne. Quand on part faire du vélo, c'est mieux de pas le faire seul. Parce que si vous arrive quelque chose, et ça peut toujours arriver, c'est bien d'avoir un camarade avec vous d'échapper qui va pouvoir alerter les secours si vous arrive quelque chose. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal de jamais faire du sport tout seul. C'est un vieux principe qu'il est bon de respecter. Après, sur ceux qui roulent en peloton, constitué, alors en général, il y a le volet club sportif, mais parfois, c'est le groupe des bons amis. Là aussi, il faut savoir rouler en peloton. Enfin, le risque d'un peloton, c'est une faute d'inattention. Il y en a un qui fait tomber. On l'a eu un des accidents mortels là, depuis le début de l'année. Hein. C'est un groupe qui roule en peloton. Il y a un phénomène de... il y en a un qui se bouscule, il se déporte. Il prend le bord du bas-côté. Et dans sa chute, il vient heurter un passage busé en béton. Et il meurt. Il était porteur du casque. Hein. C'est vraiment la faute à pas de bol. Et l'autre accident qu'on a vu aussi, c'est une personne qui se déporte comme ça pour doubler. Il pense que toute la chaussée est à lui. Il y a une voiture qui arrive en face. Elle peut pas l'éviter. Voilà. Et c'est un choc frontal. Donc il faut vraiment. Il n'y a pas une pratique qui est meilleure que l'autre. Dans tous les cas, il faut faire très attention. Et la route est à tout le monde. La route se partage. Donc faut pas croire que parce qu'on est cycliste nombreux, on est plus prioritaire qu'une voiture. Moi, j'ai vu, hein, je me rendais à une cérémonie à Cotteray pour les sapeurs-pompiers. Un cycliste qui était devant nous, qui grillait tous les feux rouges de circulation alternée parce qu'il était pressé. Et quand les voitures lui disaient quelque chose, la réponse, plutôt que peut-être se dire « je vais être prudent », c'était plutôt de faire des gestes obscènes avec les mains. Voilà, je pense que c'est pas le bon comportement, c'est pas courtois, c'est pas poli. Et quand on n'est pas propriétaire de cette route-là. Alors sur le VTT et les bike parks, le message qu'on veut rappeler, c'est les mêmes messages que pour le ski, c'est un peu le même message pour tous les sports. Quand vous démarrez un sport, vous démarrez progressivement. Donc même si c'est sans doute très sympa d'avoir une petite montée d'adrénaline en se disant qu'on descend à VTT, une piste, on a vu le championnat du monde à Loudainville, on se dit que c'est sympa de sauter par-dessus un pont, etc. Ben, en général, on commence toujours par la piste verte, le tapis, l'initiation. Et puis après, peu à peu, on monte en gamme pour après descendre des pistes rouges. Les atteintes traumatiques sur le bike park sont violentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien équipé sur une route, s'il roule raisonnablement et qu'il tombe, bon, il va y avoir des abrasions de la peau, il peut y avoir des bleus, des contusions, etc. Si dans un bike park où vous descendez avec un VTT pleine balle, si vous passez par-dessus le guidon et vous cassez la figure sur des pentes qui sont par construction assez fortes, très vite, c'est des clavicules, enfin c'est des fractures de la clavicule, des fractures des membres supérieurs, des membres inférieurs. Et donc là, c'est vacances gâchées, voire l'année qui vient gâchée, dans le meilleur des cas. Donc l'appel, c'est y aller progressivement, mais c'est juste être conscient de ses limites. Alors c'est pas facile, on a envie de se dépasser, il y a un petit côté dépassement. Mais si on n'a jamais fait de VTT, on fait attention, et les grands sportifs, on le voit pas parce que nous, on voit que la partie départ du tour, arrivée ou championnat du monde de descente. Mais tous ces sportifs-là, ils sont échauffés 2 heures avant. Enfin, ils y vont pas, la fleur au fusil, ils prennent leur joli vélo et puis ça descend. Alors, dans le département des vélos, il y en a toute l'année. On voit dès le début, hein, dès le mois de mai, ça commence dès que les écoles sont ouvertes, on a beaucoup de monde. Donc le choix de la date, comme moi l'idée c'est de toute façon de répéter plusieurs fois dans l'année le message. Là on s'était dit que si on le fait avant le Tour de France, il faut que le message, on arrive à le caler. Alors on a plein de messages tout le temps. Et c'est vrai qu'avant le Tour de France, nous, on délivre énormément de messages sur les restrictions de circulation, le fait de ne pas faire de feu au bord de la route, on sort quand même d'un épisode canicule rouge, on fait de la prévention sur les feux de forêt. Donc si on mêle ce message-là un peu, il va être perdu. Donc l'idée, c'est de le passer un petit peu plus tard. Là, on l'a fait après le Tour de France. L'année dernière, on l'avait fait avant, mais le Tour de France était passé aussi beaucoup plus tard. Il était passé le 16 et 17 juillet. Donc l'idée, c'est vraiment de répartir ça dans l'année. On l'a fait, moi j'ai passé le message lors du championnat du monde de VTT à Loudainviel. Donc on essaye, on le passe régulièrement, on le met sur les réseaux sociaux. Il faut le reléguer, hein, les partenariats qu'on a aussi avec la presse quotidienne régionale, avec les radios. C'est aussi l'idée qu'une fois que vous avez un message... Voilà, on peut le répéter à intervalles réguliers et on le répétera dans l'arrière-saison parce qu'on a aussi beaucoup de gens hein, qui profitent d'un mois de septembre sympa pour aussi poursuivre des virées en vélo.
Et concrètement, donc là, vous arrêtez les cyclistes, vous les interpellez, vous leur faites la leçon. Comment ils réagissent en fait?
Alors,
est-ce qu'ils sont réceptifs au message?
L'idée, c'est pas de faire la leçon, hein, c'est pas l'objectif qu'on poursuit. Là, on a tous ceux qui s'arrêtent quand ils ont descendu le col du Tourmalet. Alors là, on n'en a pas eu pendant qu'on était là, mais tout à l'heure, il y en avait. Là, l'idée, c'est de discuter un petit peu et puis de faire ces rappels-là. Alors, après, je suis pas dupe. Quand on fait des rappels, et ça marche à tous les coups, les gens nous disent oui, bien sûr, moi je suis très prudent, monsieur le préfet. Voilà. Et la deuxième attitude en général, c'est de dire que c'est plutôt la faute des autres. C'est-à-dire, monsieur le préfet, vous feriez mieux de contrôler les voitures qui ne roulent pas correctement. Après, il se trouve que...
Vous contrôlez aussi les voitures.
Voilà. Alors, d'abord, je contrôle aussi les voitures. Et puis, c'est vrai qu'une des caractéristiques d'un préfet ou d'un sous-préfet, c'est qu'on roule quand même beaucoup dans le département pour aller d'un point A à un point B. Donc, on parcourt beaucoup de distance à des heures très variées de la journée et on se rend compte des comportements. Donc, c'est vrai que moi, il m'arrive, quand je suis sur un déplacement et que je constate quelque chose qui ne va pas, de le dire gentiment à un cycliste, ça fait aussi partie de la prévention. J'ai pas toujours le prospectus à donner à ce moment-là, mais il faut répéter. Après, ça va mûrir. Hein. Je pense que parfois aussi le meilleur vecteur de prévention, c'est le conjoint du cycliste. Tout à l'heure, le monsieur qu'on a vu, il disait ma femme m'a dit de faire attention à ça. Elle s'inquiète pour moi, elle devrait pas. Bah finalement, si, elle a raison. Sa femme de lui dire si t'es pas en pleine forme. C'est pas grave de pas monter aujourd'hui jusqu'au Tourmalet. S'il se met à pleuvoir, tu rentres. Voilà. Et lui avait dit, je rentre à midi. Ça permet aussi de savoir que s'il n'est pas rentré à midi sur le parcours, il y a un problème et on peut appeler les secours.
Voilà, Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées, qui nous rappelle que sur les routes, que ce soit en ville, à la campagne, en montagne, sur des circuits fermés, il y a quelques règles plutôt simples, finalement, à respecter. Porter un casque, rouler à droite, maîtriser sa vitesse, vérifier son vélo avant de partir, rouler en groupe, s'assurer que la météo est favorable. Et puis, une fois arrivé au sommet, prendre une pause. Et si vous respectez ces règles-là, eh bien, vous pourrez rouler en toute sécurité. La sécurité, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, nous rappelle aujourd'hui Jean Salomon.
Voilà, le préfet des Hautes-Pyrénées qui était à votre micro. Merci beaucoup, Anne-Rose Jankovic. Après nous avoir parlé longuement de ce qui se passe dans le diocèse de Tarbes-Lourdes et avoir été aller sur le direct puisque c'était un rendez-vous qu'avait donné le préfet à la presse sur le Tourmalet. On peut faire du vélo, on peut passer du bon temps, mais il faut effectivement aussi être prudent. Hein. Et ce sont ces rappels que vous nous avez fait, Anne-Rose.
Voilà, exactement. 7 petites règles d'or à respecter pour faire du vélo en toute sécurité en montagne. Et il y en a des cyclistes, hein, il y en a beaucoup.
il y en avait beaucoup qui... aujourd'hui, en plus, les températures étant un petit peu plus clémentes, ça doit être du bonheur pour ceux qui aiment ça, d'aller gravir le géant des Pyrénées, le Tourmalet. Voilà, merci.
Oui. Entre nous, je préfère les regarder que le faire. Écoutez, mais c'est très bien, très très bien.
La prochaine fois, je viens vous tenir le micro, ça m'ira très voilà. Bien. Merci beaucoup, Anne-Rose.
Merci Philippe.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, avec grand plaisir.
Et là, je vous propose d'écouter quelqu'un que sûrement vous allez apprécier, puisqu'on va parler des bergers d'or dans les sentiers, du Moudan, interprété, puisque je ne savais pas, mais cette chanson a été écrite par notre ami Edmond Duplan, qui a été chroniqueur ici sur Radio Présence pendant plusieurs années. Edmond Duplan, à l'instant. À la semaine prochaine. Au revoir, Anne-Rose.
Au revoir, Philippe. Merci.
Chanson écrite par notre ami Edmond Duplan, le berger d'or avec les sentiers du Moudan, à l'instant sur Présence. Nous allons poursuivre avec, après avoir mis à l'honneur le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, nous partons pour la direction du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Nous retrouvons Violaine Ricourt-Dumas qui est avec l'ancien évêque de ce diocèse qui n'est autre que Monseigneur Moller.
Présence à Auch. 89.6.
Monseigneur Pierre Moller, bonjour à vous. Vous êtes l'ancien évêque de Bayonne, Lescar et Oloron et vous fêtez cette année vos 40 ans d'épiscopat, donc puisque vous avez été évêque de Bayonne de 1986
à 2008.
Jusqu'à 2008. Voilà, donc vous êtes resté 22 ans évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Donc cette ordination qui a eu lieu il y a 40 ans, vous vous en souvenez bien, est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Eh bien, l'ordination, d'abord, elle a commencé par une pluie torrentielle. Et donc, j'ai attribué ça au déversement de la grâce. Voilà. Mais en même temps, l'épiscopat a été très tumultueux. C'était une période difficile de fin d'époque. Parce que maintenant, le monde a beaucoup changé et on ne peut plus gérer ce diocèse et administrer ce diocèse comme de mon époque, mmh. où ce qui faisait l'actualité, la une, c'était l'affaire basque-espagnole, basque-nationale, et puis après les événements de Lac, la fermeture du gaz de Lac.
Alors donc, effectivement, vous avez vécu la cause basque de plein fouet. Pour vous, ça n'a pas été facile. Il y a eu des occupations de la cathédrale, je crois.
Très difficile parce que, d'abord, je ne connaissais pas la langue, et je ne connaissais pas du tout la situation, et il m'a fallu apprendre peu à peu, et très difficilement parce que, à cette époque-là, les prêtres qui étaient très au courant ne parlaient pas. Ils avaient la consigne de ne pas parler. Donc, il m'a fallu tout découvrir de moi-même. Et paradoxalement, ça a été dans les Landes, mon diocèse d'origine, où j'ai su d'un prêtre basque qui était les événements ce prêtre basque a pu m'expliquer les enjeux. Ça a été très important pour moi.
Comment est-ce que vous avez fait alors pour comprendre et pour accompagner la fin de ce conflit ?
Alors, d'abord, eh bien, justement, par ce prêtre, parce que chaque semaine, je revenais dans les Landes pour une journée de repos, et donc, je le voyais, et il se tenait très au courant, c'était un homme très intelligent, et il se tenait tout à fait au courant des événements, et il m'expliquait, peu à peu. Et puis après, j'ai dû faire moi-même, par la grâce du Seigneur, j'ai eu affaire pendant 10 ans à l'occupation de la cathédrale de Bayonne 2 fois par an. Mais maintenant, je vous décris ça comme quelque chose de logique, mais j'ai dû constater cela. Et donc, il a fallu réagir sur le moment, à chaud. Mais je me réservais toujours au moins 10 minutes de concentration et de prière. Au moins 10 minutes. Voilà.
C'est ça qui vous a aidé ?
Oui,
oui,
beaucoup.
Et
beaucoup.
Puis vous avez évoqué donc le bassin de Lac avec la fin de l'activité au bassin de Lac.
Oui, et alors après il y avait quand même un certain nombre de prêtres ouvriers, mais enfin ces prêtres ouvriers, ils étaient quand même très loin de l'évêché de Bayonne et très déconnectés de la réalité diocésaine parce qu'ils étaient tellement empreints de cette problématique sociale que je les voyais très peu. Et donc, je n'ai pas été conseillé du tout par eux. Mais il m'a fallu quand même là aussi réagir. Et c'est ce que j'ai fait. Par un communiqué où il a fallu que je dise que le directeur qui venait en même temps d'afficher les bénéfices de l'entreprise, en même temps, il serrait les vis pour le personnel. Et alors, j'ai fait voir le paradoxe de cette attitude.
Donc l'Église a un rôle à jouer dans la société, et vous l'avez montré
bien sûr,
par vos actions, par vos communiqués.
Si bien que mon communiqué à moi a été affiché sur les murs de l'usine de Lac.
Voilà. Et puis concernant donc le diocèse lui-même, la vie spirituelle, il y a eu un synode, je crois, pendant votre épiscopat.
Il y en a eu même deux en 2012 et puis après plus tard. Et ça a été un grand moment parce que là, par une espèce de méthode, il y a eu communication et même communion entre les élus du Béarn et les élus du Pays Basque. C'était très nouveau à ce moment-là.
Oui. Voilà. À votre époque, le Béarn et le Pays Basque étaient très séparés. Vous trouvez que ça s'est amélioré aujourd'hui ?
Bien sûr. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'autoroute Bayonne-Pau n'était pas encore faite. Et moi-même, ça me demandait beaucoup de temps d'aller de Bayonne à Pau. Et c'est le maire de Bayonne qui, intelligemment, a vu que sur le plan économique et aussi peut-être politique, ce serait bien. Et de fait, parce que ce que l'on n'a pas dit, c'est que en Béarn, on était très, très partie prenante du statu quo, puisque tout l'argent des gaz de Lac revenait en Béarn.
Et oui.
Et pas du tout, il n'y avait aucune retombée à ce moment-là au Pays Basque.
Mais vous avez senti que cette autoroute a créé plus de communion.
Ah oui. Et plus d'emplois aussi, parce que peu à peu, il y a eu quand même des emplois qui sont venus de Bayonne. Voilà. Ça a été, sur le plan objectif, une espèce de rééquilibrage de la justice sociale.
Donc, un petit bilan de ces 40 ans d'épiscopat, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui vous a rendu heureux?
D'abord, le diocèse de Bayonne-Pau était un beau diocèse, un grand diocèse. On sentait qu'il avait une grande vitalité. Et je pense qu'on pouvait dire que c'était dû en partie à l'Église, qui a fait son travail d'évangélisation, mais à sa manière, à cette époque. Parce que beaucoup de prêtres étaient d'origine rurale, ils n'avaient pas été formés à la modernité comme l'Église a basculé maintenant, et la société. Donc, ils ont fait le mieux possible, comme ils ont pu. Mais il y avait peu à peu, moi je sentais très bien qu'il y avait des points de fragilité. Et ça, les prêtres n'étaient pas très au courant de tout ça.
Aujourd'hui, Monseigneur Moller, vous habitez donc à Bières, chez les Pères Blancs. Vous êtes encore actif, je crois. On vous demande encore beaucoup de choses. Comment vit un évêque émérite quand il y a un autre évêque sur place? Vous arrivez à trouver votre place?
Mon environnement, je suis environné de livres. Je lis beaucoup. Je reçois aussi. J'écris, voilà. Et en même temps, je prie, bien sûr, pour les évolutions négative parfois. Il faut se dire ça. Tout n'est pas, c'est pas le pays du cocagne qu'on disait. Même si sur le plan économique, pour le moment, ça va. Mais il y a quand même beaucoup de pauvres, de pauvreté. Il faut le savoir, cela.
Donc on sait que vous êtes là pour prier pour tous les diocésains. Et c'est important.
Et pour mes successeurs. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Monseigneur Moller.
Qu'elle baisse encore un jour, terre, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Porte du jardin d'Esmeralda.
et ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle serait-elle encore plus seule quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda.
À Moissac, 93.3.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous littéraire de montagne. Je sais que les gens apprécient beaucoup à la fois la qualité de votre travail et puis la qualité aussi de votre voix. Parce que lorsqu'on se laisse transporter par votre voix, on voyage. Moi ça me plaît. Hein.
Oh, écoutez Philippe, je vous remercie pour tous ces compliments.
Alors aujourd'hui, Anna, c'est avec un botaniste que nous allons parcourir les Pyrénées aujourd'hui. Nous prenons la machine à remonter le temps car il nous faut revenir un peu avant la Révolution française.
Oui, Philippe, comme vous le dites, si nous fermons les yeux, nous serons en 1788 avec Saint-Amand qui est venu herboriser dans les Pyrénées. Les Pyrénées sont alors un gigantesque laboratoire ouvert aux géologues, aux botanistes ou encore aux astronomes.
Saint-Amand est si passionné par la botanique qu'il a créé à Agen, sa ville natale, un jardin des plantes pour que les cultivateurs, les pharmaciens, les officiers de santé, les herboristes puissent augmenter leurs connaissances en ce domaine.
Et j'ai lu qu'il appartenait également à une vingtaine de sociétés savantes. C'est aussi un collectionneur et il rapporte beaucoup d'objets quand il voyage. Saint-Amand a beaucoup voyagé en France, en Angleterre, en Amérique également.
Alors, il publie ses journaux de voyage. Ainsi, on a des récits de ses voyages aux îles du Vent, ou plus près de chez nous, dans les Landes, dans les Pyrénées, où il vient en 1788 pour herboriser. Anne, on vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Le naturaliste Florimond Boudon de Saint-Amand est né à Agen en 1748. Il sera d'ailleurs consul d'Agen en 1779 et 1783, puis président du Conseil général du Lot de 1800, date de la création du département, jusqu'à sa mort en 1831. Passionné de botanique lorsqu'il vient dans les Pyrénées, il ne manque pas de s'intéresser avant tout aux plantes qu'il observe pendant les mois de juillet et août 1788. C'est pour cela que, lorsqu'il séjourne à Bagnères-de-Bigorre, il contacte un herboriste du village d'Asté. « Je projette pour demain, écrit Saint-Amand, une course sur la montagne de Léris avec un herboriste du village d'Asté. Cet herboriste, nommé Jacou, ne compte que des herboristes pour ancêtres, jusqu'à celui qui, ayant parcouru cette contrée avec Tournefort, a fait l'illustration de sa famille. Ce trait sur la généalogie des Jacou est tiré d'un imprimé qu'ils débitent aux étrangers avec leurs vulnéraires. Je n'ai point vu le Jacou actuel, mais j'ai prévenu sa mère qu'il aurait ma visite demain de très bonne heure. Le 3, à 4 heures du matin, je suis déjà lancé sur la route de Médouce et demande à qui veut m'entendre le chemin du village d'Asté. Bientôt, je me trouve enveloppé dans une procession qui se rend gravement de bannière à Médouce pour implorer les bonnes grâces de Notre-Dame. La procession ne me conduisant point au village d'Asté, je la quitte et traversant la Dour, je vais, chantant tout seul mes litanies, vers la demeure du botaniste Jacou. Il m'attendait, prêt à partir pour la montagne. Sa bonne mère, deux de ses sœurs, une très jolie cousine se trouvent là. C'est presque au lever de l'aurore. C'est au milieu du jardin qu'on me reçoit en cérémonie. Les dames Jacou, avec leurs capulets blancs ou rouges, Monsieur Jacou en gilet, en bonnet pointu, en guêtre, sans souliers. Mais, jeune homme de 25 ans, mais bien robuste, mais bien leste, un simple compliment de ma part cimente la familiarité qui va désormais régner entre nous. Je jette un coup d'œil sur le jardin. Je vois qu'on y cultive l'aconite napelle. Je témoigne ma surprise de voir ce terrible poison végéter au milieu des herbes médicinales et salutaires. La mère me répond sur le champ. Nous connaissons fort bien, monsieur, les qualités malfaisantes du napelle. Il y a peu de jours encore que, m'étant oublié ici trop longtemps au grand soleil, j'éprouvais un étourdissement très douloureux et qui pouvait devenir funeste. Mais notre grand-père l'a placé lui-même où vous le voyez. Il aimait à contempler le port, le feuillage, la fleur de cette plante, et nous nous sommes toujours fait un devoir de la respecter. Bonnes gens, dis-je alors tout bas, qui vénérez ainsi la mémoire de vos ancêtres. Monsieur Jacou, votre jardin est fort beau, mais celui de la nature l'est encore davantage. Déjeunons et partons. On déjeune avec du lait, avec du beurre, et l'on part. Nous allons, me disait Jacou, nous allons parcourir les bois et les montagnes où je ramasse mes vulnéraires. Nous nous élèverons sur le sommet de l'Héris, d'où vous jouerez d'une perspective tout aussi étendue que du haut du pic du Midi. Ayant percé la forêt, nous nous trouvâmes sur le Léris, en face de son dernier sommet, et dans une prairie qui me parut au premier coup d'œil le lieu le plus solitaire de la nature. Mais je ne tardais point à m'apercevoir que nous étions bien éloignés d'être seuls. À peine fûmes-nous sortis de la forêt que 500 cornets à bouquins se firent entendre des hauteurs voisines. Ils se répondaient mutuellement et retentissaient dans les rochers d'une manière effrayante et terrible. Surpris, je m'arrête avec une espèce d'effroi. « Monsieur Jacou, quel est ce bruit ?»« Ce n'est rien, me répondit-il. Les pasteurs qui nous ont vus s'annoncent réciproquement notre arrivée dans la prairie. » Quelle vie que celle de ces bergers! Ils passent ici 6 mois de l'année comme les anachorètes de la Thébaïde et ne communiquent entre eux que par les cornets à bouquins dont ils nous ont fait entendre la mélodie. Le jour, sans cesse isolés au milieu de leurs troupeaux, sans cesse en activité pour veiller à ce que nulle vache, nulle brebis, nulle chèvre ne s'égare, ne tombe dans un précipice, ne devienne la proie des loups. La nuit, se retirant sous le toit de leur cabane et dormant environnés de leur peuple ruminant qui repose lui-même sous la garde du chien fidèle. Quelle vie ! Reposons-nous, me dit mon guide, nous avons à gravir la peine du Léris que vous voyez au-dessus de notre tête. Mais c'est une chose impossible, monsieur Jacou, nous ne monterons jamais sur ce rocher. Quoi, répétais-je sans cesse à Jacou, nous monterons sur ce rocher ? « Suivez-moi, » me disait toujours Jacou. « Allons, » disais-je à mon tour, sans trop savoir ce que j'allais devenir. Au sommet, peine et danger, plante même, tout s'oublie pour admirer la perspective immense qui s'offre au regard. Les collines, les plaines se confondent, tout est surface unie pour celui qui plane à une aussi grande hauteur. « Voilà Toulouse, » disait Jacou. « Vous distingueriez le pont de cette ville si vous aviez une bonne lunette. » Voilà Lombèze, Saint-Gaudens, Auch, Tarbes, ces clochers sautent aux yeux. Voilà le pic du Midi. Je me retourne pour regarder cette superbe montagne dont le sommet dégagé de nuages, porté sur la croupe d'autres montagnes, semble s'élancer dans la région de l'éther. Florimond Boudon de Saint-Amand était donné comme une personnalité originale et prenante, douée d'une intelligence admirable, servie par une grande mémoire. Par bien des aspects, il est un homme du XVIIIe siècle, un homme du siècle des Lumières. Et les Pyrénées sont avant tout pour lui un merveilleux et gigantesque jardin des plantes où l'on peut herboriser à sa guise. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Saint-Amand, intitulé « Fragment d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrénées », ouvrage publié par les Amis du Livre pyrénéen en 1979.
Alors Anne et les savants ne ménageaient pas leur effort quand il s'agissait de mieux connaître les montagnes et les plantes. Et Saint-Amand gravit le casque du Léris près de Bagnères-de-Bigorre.
Et il en profite pour évoquer Tournefort qui, sous Louis XIV, donc un siècle avant lui, a gravi le casque de Léris. Et une plaque commémorative rappelle son passage dans le village d'Asté.
Il est très étonné de voir dans le jardin cultivé par la famille Jacou de Laconie-Napel, qui est appelé aussi Tulou ou casque de Minerve, parce que c'est un poison pouvant entraîner la mort quand même.
Oui, alors j'ai recherché, Philippe, c'est en effet une plante très toxique, certainement la plus toxique de la flore française, et ce poison est connu depuis l'Antiquité. Hannibal se serait suicidé avec un mélange d'aconite et de ciguë pour échapper aux Romains.
Ah bon? Et les Gaulois, d'ailleurs, paraît-il, utilisaient ce poison pour chasser les ours et les loups. Ils les mettaient sur leurs flèches.
Et c'était également, paraît-il, le poison préféré des Borgia. Ah,
d'accord. La semaine prochaine, Anne, nous irons dans un village de l'Ariège à Biertes.
Biertes, oui. Enfin, je prononce Biertes, je ne sais pas, B-I-E-R-T.
Voilà, on va dire pareil, Biertes. Pas loin de Massa ou de Massat.
Je dis aussi Massat.
On a des problèmes l'été. Donc, si vous êtes auditeur et que vous connaissez la prononciation, ben on s'excuse. Et puis, ben, passez-nous un petit coup de fil. Hein. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir la bonne prononciation. Merci beaucoup, Anne Lasserre. Hein. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. A vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. I split the night and touched the sound of silence. Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound.
Radio Présence à Arreau, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
À la une de ce journal, le vote en France de la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, adoptée